Chapitre 13. Le docteur Metcalf était l'un des praticiens les plus connus de Danemouth. S'il ne se montrait pas très expansif avec ses malades, sa présence avait toujours sur eux un effet réconfortant. Il était d'âge moyen et s'exprimait d'une voix calme et agréable. Il écouta attentivement le superintendant Harper et répondit à ses questions avec autant d'amabilité que de précision.
« Je peux donc considérer, docteur, dit le policier, que ce que m'a dit Madame Jefferson est grosso modo exact. »«
Oui, l'état de santé de Monsieur Jefferson est précaire. Voilà des années qu'il en fait trop. Dans sa détermination à vivre comme tout le monde, il s'est imposé un rythme bien supérieur à celui d'un homme de son âge. Il refuse de se reposer, de rester tranquille, de prendre son temps, bref, de suivre mes recommandations ou celles de mes confrères. » Cœur, poumons, tension artérielle et j'en passe. La machine a tourné trop vite. Il a catégoriquement refusé de suivre vos conseils.
Oui, et je ne saurais vraiment l'en blâmer. Je ne dis pas ça à mes patients, Monsieur Harper, mais un homme peut préférer s'user plutôt que de se rouiller. Nombre de mes collègues en font autant, et croyez-moi, ils n'ont pas tort. Dans un endroit comme Danemouth, on voit surtout le contraire. Des malades qui s'accrochent à la vie, affolé à l'idée de la moindre fatigue, du moindre courant d'air, du moindre microbe, du moindre écart.
« Je vous crois volontiers, » acquiesça le superintendant Harper. « En somme, la force de Conway Jefferson est surtout physique, musculaire même, devrais-je dire. De quoi est-il capable au juste dans ce domaine ?
Il a beaucoup de force dans les bras et les épaules. C'était un homme vigoureux avant son accident. Il est d'une adresse remarquable pour manœuvrer son fauteuil roulant et, avec une paire de béquilles, il se déplace aisément dans une pièce, de son lit à son fauteuil, par exemple.
Ne pouvait-on, compte tenu de ses blessures, lui mettre des jambes artificielles ?
Pas dans son cas. La colonne vertébrale était touchée.
Je vois. Résumons encore une fois. Jefferson est en bonne forme physique au sens musculaire du terme. Il se sent bien.
Metcalf acquiesça de la tête.
« Mais son cœur est en mauvais état, » poursuivit Harper. « Un surcroît d'effort ou de fatigue, un choc, une frayeur soudaine et hop, c'est ça. »
Plus ou moins. Le surmenage le tue à petit feu parce qu'il refuse de se ménager quand il se sent fatigué, ce qui est mauvais pour son cœur. Il est peu probable que la fatigue le tue soudainement. Mais un choc brutal ou une grande frayeur, oui, c'est certain. D'où mes mises en garde à sa famille.
Et pourtant, conclut lentement Harper, le choc ne l'a pas tué. Or, il ne pouvait guère en recevoir de pire qu'avec cette histoire. Et il est toujours vivant.
Je sais. Mais si vous aviez mon expérience, superintendant, vous sauriez que dans ce genre de maladie, il est impossible de faire des pronostics précis. Les gens qui devraient mourir d'un choc émotionnel ou d'un coup de froid ne meurent pas d'un choc émotionnel ou d'un coup de froid. Le corps humain est beaucoup plus robuste qu'on ne le croirait. En outre, toujours selon mon expérience, un choc sensoriel est beaucoup plus souvent fatal qu'un choc moral. En termes plus concrets, une porte qui claque soudain serait davantage susceptible de tuer M. Jefferson que le fait d'apprendre que la fille dont il s'était entiché vient de mourir dans d'atroces conditions.
Pourquoi cela ?
L'annonce d'une mauvaise nouvelle provoque presque toujours une réaction de défense. Elle paralyse celui qui la reçoit. Il est, tout d'abord, incapable de l'assimiler. Il lui faut un peu de temps pour vraiment réaliser. La porte qui claque, par contre, quelqu'un qui jaillit d'un placard, le passage brutal d'une moto au moment où vous traversez la route, tous ces incidents ont un effet immédiat. Le cœur en prend un coup pour reprendre l'expression populaire.
Mais autant qu'on sache, fit lentement Harper, le choc causé par la mort de la fille aurait facilement pu entraîner celle de M. Jefferson.
Sans aucun doute.
Le médecin regarda le superintendant avec curiosité.
Vous ne pensez tout de même pas que...
Je ne sais pas ce que je pense,
coupa le superintendant Harper avec humeur.
Vous admettrez que ça n'aurait rien d'insensé, dit-il un peu plus tard à Sir Henry Clisring.
Ça aurait été faire d'une pierre deux coups. D'abord la fille, puis la nouvelle de sa mort aurait emporté M. Jefferson avant qu'il n'ait eu le temps de modifier son testament.
Vous croyez qu'il va le modifier ?
Vous êtes sans doute mieux placé que moi pour répondre. Qu'en pensez-vous ?
Je l'ignore. Je sais qu'avant l'entrée en scène de Rubikin, il avait partagé son argent entre Marc Gaskell et Madame Jefferson. Je ne vois pas pourquoi il changerait d'avis maintenant. Mais rien ne l'empêcherait, bien sûr, d'en faire don à un refuge pour animaux ou de subventionner une troupe de jeunes danseurs professionnels.
Le superintendant acquiesça. C'est vrai. On ne sait jamais quelle mouche peut piquer un homme. Surtout quand il se sent libre de toute obligation morale quant à la disposition de sa fortune. Et dans ce cas précis, il n'y a aucun lien de parenté.
Il est très attaché au petit Peter, remarqua Sir Henry.
Croyez-vous pour autant qu'il le considère comme son petit-fils ? Pour savoir ça aussi, vous êtes mieux placé que moi.
Non, je ne crois pas que ce soit le cas, répondit pensivement Sir Henry.
Il y a une autre question que je désirerais vous poser, Sir Henry. C'est une chose que vous, en tant qu'ami de la famille, serez mieux à même de juger que moi. J'aimerais connaître le degré d'estime de M. Jefferson pour M. Gaskell et la jeune Madame Jefferson.
Sir Henry fronça les sourcils. « Je ne suis pas sûr de bien saisir, superintendant. »
Eh bien, en dehors de toute connotation familiale, comment les apprécie-t-il en tant que personne ?
Ah, je comprends.
Oui, personne ne doute qu'il leur était très attaché à l'un et à l'autre. Mais cet attachement me semble dû au fait qu'ils étaient le mari et la femme de ses enfants. Qu'en aurait-il été si l'un d'eux s'était remarié ?
Sir Henry réfléchit un moment. C'est un point intéressant que vous soulevez là. Je n'en sais rien. Je serais enclin à penser, ce n'est qu'une opinion, que cela aurait sensiblement changé son attitude. Sans rancune, il l'aurait souhaité tout le bonheur possible, mais je crois... Oui, je crois vraiment qu'il ne leur aurait plus guère porté d'intérêt.
Pour l'un comme pour l'autre,
il me semble. Dans le cas de M. Gaskell, presque certainement. Dans celui de Mme Jefferson, sans doute aussi. Mais ce n'est pas si sûr, car elle, il l'aimait bien en tant que personne.
Le fait que ce soit une femme n'y est sans doute pas étranger, déclara Harper d'un air docte. Il lui était plus facile de la considérer comme sa fille que M. Gaskell comme son fils. C'est valable dans les deux sens, d'ailleurs. Si les femmes acceptent volontiers un gendre comme membre de la famille, il est par contre plus rare de les voir considérer leur bru comme leur fille.
Harper s'interrompit un instant et reprit.
« Vous voulez bien m'accompagner jusqu'au cours de tennis par ce sentier ? J'aperçois là-bas Miss Marple et j'aurai une tâche à lui confier. En fait, j'ai l'intention de vous enrôler tous les deux.
Pourquoi faire, superintendant ?
Obtenir des renseignements auxquels j'aurais difficilement accès moi-même. Je voudrais que vous entrepreniez Edwards pour moi, Sir Henry.
Edwards ? Que voulez-vous obtenir de lui ?
Tout ce que vous pourrez. Tout ce qu'il sait. Tout ce qu'il pense au sujet des relations entre les membres de la famille. Son point de vue personnel sur l'affaire Rubikin. Des détails internes. Il connaît la situation mieux que personne, vous pensez ? Seulement... Il ne me dira rien à moi. À vous, si. Et il n'est pas impossible que nous en tirions quelque chose. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien entendu.
Aucun, affirma résolument Sir Henry. On est venu me chercher de façon pressante pour découvrir la vérité. Je suis donc prêt à me mettre en quatre. Mais en quoi Miss Marple pourra-t-elle vous aider ?
Avec certaines des éclaireuses. Nous en avons rassemblé une demi-douzaine à peu près, les meilleurs amis de Pamela Reeves. Il n'est pas exclu qu'elle sache quelque chose. J'ai réfléchi, voyez-vous. Il me semble que si cette petite allait vraiment chez Woolworths,
Elle aurait essayé de convaincre l'une de ses camarades de l'accompagner. Les filles n'aiment généralement pas courir les magasins toutes seules.
Je crois que vous avez raison.
Ce qui m'amène à penser que Woolworths n'était qu'une excuse. Je veux savoir où Pamela allait réellement. Elle a peut-être laissé échapper quelque chose. Si tel est le cas, je ne vois que Miss Marple pour tirer les vers du nez à ces gamines. Elle en sait bien plus long que moi sur la gente féminine. D'ailleurs, elles doivent avoir une peur bleue de la police.
Ce genre d'énigme de village me paraît tout à fait dans les cordes de Miss Marple. Elle est roublarde, vous savez.
Le superintendant sourit.
Ça n'est pas moi qui vous contredirai. Pas grand-chose ne lui échappe.
Miss Marple leva les yeux à leur approche et les salua avec empressement. Elle accepta immédiatement la requête de Harper.
« Je serai ravie de vous aider, superintendant, et je crois bien pouvoir vous être utile. Avec l'instruction religieuse du dimanche, les éclaireuses, l'orphelinat à deux pas, je fais partie du bureau et je passe souvent pour discuter un peu avec la directrice. Et, sans même compter mes bonnes, toujours très jeunes, je sais par expérience quand une fille dit la vérité et quand elle cache quelque chose.
En fait, vous êtes même experte en la matière, dit Sir Henry.
Miss Marple lui adressa un regard de reproche.
Je vous en conjure, Sir Henry, ne vous moquez pas.
Je ne m'y risquerai pas. C'est trop souvent vous qui l'avez fait à mes dépens.
On voit tellement de vilaines choses dans un village,
murmura Miss Marple en guise d'explication.
Au fait, dit Sir Henry, j'ai éclairci l'un des points que vous m'aviez soumis. Le superintendant me confirme qu'il y avait des rognures d'ongles dans la corbeille à papier de Rubikin.
Ah bon ? Fit-elle d'un air pensif.
Alors c'est bien ça.
Pourquoi vouliez-vous savoir ça, Miss Marple ? Demanda Harper.
Parce que c'était l'une des choses qui m'avait chiffonné quand j'ai regardé le corps. J'avais trouvé les mains bizarres, mais sans comprendre pourquoi sur le moment. Et puis j'ai pensé que les filles qui se maquillent beaucoup ont en général les ongles longs. Je sais, il y a partout des gens qui se les rongent. C'est une manie dont il est très difficile de se débarrasser. Mais la coquetterie fait souvent des prodiges. Pourtant, j'ai cru que cette fille n'y était pas parvenue. Et puis, le petit garçon, Peter, vous le connaissez, a dit quelque chose qui indiquait qu'elle les avait longs, mais qu'elle s'en était cassée un. Auquel cas, elle avait peut-être coupé les autres par souci d'équilibre. D'où ma question sur d'éventuelles rognures et la promesse que m'a faite Sir Henry de se renseigner.
Vous venez de dire l'une des choses qui m'avait chiffonné quand j'ai regardé le corps, fit remarquer ce dernier. Il y en avait d'autres?
Oh oui, dit Miss Marple en hochant vigoureusement la tête. Sa robe. Côté robe, tout clochait.
Les deux hommes la regardèrent avec curiosité.
Comment cela ? Demanda Sir Henry.
Eh bien, voyez-vous, c'était une vieille robe. Josie l'a affirmé et je me suis moi-même rendu compte qu'elle était usée et limée. Non, ça n'allait pas du tout.
Je ne vois pas pourquoi.
Le visage de Miss Marple rosit quelque peu.
Voyons, l'hypothèse est bien, si je ne m'abuse, que Rubikin se serait changée afin de sortir avec quelqu'un pour qui elle avait le béguin, comme disent mes petits-neveux.
Une lueur amusée passa dans les yeux du superintendant.
C'est notre théorie.
Elle avait rendez-vous avec un petit ami, comme on dit.
Alors pourquoi, je vous le demande, avoir choisi une vieille robe ?
Perplexe, Harper se gratta la tête.
Je vois ce que vous voulez dire.
Elle aurait dû en mettre une neuve.
Elle aurait dû mettre la plus belle. C'est ce que font toutes les filles.
Sir Henry intervint.
Sans doute, mais attendez, Miss Marple. Supposons qu'elle ait eu à sortir pour se rendre à ce rendez-vous. Un trajet en voiture découverte, par exemple, ou une marche par des chemins difficiles. Plutôt que de risquer d'abîmer une robe neuve,
elle aurait pu en mettre une vieille.
Oui, ça serait logique, convint Harper. Miss Marple se tourna vers lui.
Le plus logique, dans ce cas, répondit-elle vivement, aurait été de mettre un pull et un pantalon, ou un ensemble de tweed. C'est du moins, je ne voudrais pas paraître snob, mais c'est un peu inévitable, ce qu'aurait fait une jeune fille de notre milieu.
Une jeune fille bien élevée, reprit-elle en s'animant, fait toujours très attention à mettre les vêtements qu'il faut au moment où il faut. Par exemple, si chaud qu'il puisse faire, une jeune fille bien élevée ne mettra jamais une robe de soie à fleurs pour se rendre à un rallye équestre.
Et quelle est la tenue correcte pour rencontrer un amoureux ? S'enquit Sœur Henry.
Si le rendez-vous avait lieu à l'intérieur de l'hôtel ou quelque part où la tenue de soirée serait de rigueur, elle mettrait sa plus belle robe longue, bien sûr. Mais dehors, elle se sentirait ridicule en robe du soir et porterait ses vêtements de sport les plus saillants.
Fort bien, grande prêtresse de la mode. Mais cette rubis...
Rubis, en effet, n'avait à proprement parler rien d'une femme du monde. Elle appartient à cette classe où l'on revêt ses plus beaux atours, même dans les circonstances les plus inadéquates.
L'année dernière, tenez, nous avons eu un pique-nique à Scranter Rocks. Vous auriez été ébahis par les toilettes de ces demoiselles. Robes en soie, souliers vernis et, pour certaines, jusqu'à des chapeaux tarabiscotés. Pour grimper dans les rochers, passer dans la broussaille et la bruyère. Et les garçons engoncés dans leurs costumes. Pour les randonnées, c'est encore autre chose. Les filles ne semblent pas se rendre compte qu'un short de marche n'essayant que si elles sont très minces. Or, c'est pratiquement devenu un uniforme.
Et vous pensez que Ruby Keene, interrompit doucement Harper,
je pense qu'elle aurait gardé la robe rose qu'elle avait sur elle, sa plus jolie. Elle n'en aurait changé que si elle avait eu mieux à se mettre.
Et comment expliquez-vous qu'elle ait agi autrement, Miss Marple ?
Je ne l'explique pas. Pas encore. Mais quelque chose me dit que c'est là un point important.
À l'intérieur du cours grillagé, la leçon de tennis que donnait Raymond Starr venait de se terminer. Son élève, une grosse femme entre deux âges, émit quelques gloussements énamourés, ramassa un cardigan bleu ciel et prit la direction de l'hôtel. Raymond lui lança gaiement quelques mots aimables tandis qu'elle s'éloignait. Puis il se tourna vers le banc où les trois spectateurs étaient assis. Ses balles atterrissaient dans un filet qu'il tenait à la main et il avait sa raquette sous le bras. Sa gaieté et son sourire disparurent instantanément de son visage, comme effacés par un coup d'éponge. Il parut soudain là et inquiet.
« Ouf, terminé !» lança-t-il en s'approchant d'eux.
Son sourire reparut soudain. Ce sourire charmeur, juvénile, expressif, qui s'harmonisait si bien avec son teint hâlé et sa grâce de félin. Sœur Henry se surprit à spéculer sur son âge.
25 ans, 30, 35. Impossible à dire.
Celle-là, je vous garantis qu'elle ne saura jamais jouer, fit Raymond en secouant la tête.
Ce genre de corvée doit être terriblement ennuyeuse pour vous, commenta Miss Marple.
Ça l'est parfois, reconnut-il, surtout quand l'été tire à sa fin. Pendant un temps, l'idée de la paye vous regonfle un peu, et puis même cela n'arrive plus à vous stimuler.
Le superintendant Harper se leva brusquement.
« Je viendrai vous chercher dans une demi-heure, Miss Marple, si toutefois cela vous convient. »«
Tout à fait, merci. Je serai prête. »
Harper s'éloigna. Raymond le suivit un moment des yeux.
« Je peux m'asseoir un instant avec vous ? » demanda-t-il.
« Je vous en prie, » dit Sœur Henry. « Cigarette ?»
Il tendit son étui tout en se demandant d'où venait cette légère réserve qu'il éprouvait à l'égard de Raymond Starr. Était-ce à cause de son métier de professeur de tennis et de danseur mondain? Auquel cas, le tennis n'étant pas en cause, ce devrait être la danse.
Un Anglais, décida Sœur Henry, ne pouvait qu'éprouver de la méfiance pour un homme qui dansait aussi bien. Ce type évoluait avec trop de grâce. Ramon, Raymond, comment s'appelait-il déjà ? Il posa abruptement la question. L'autre en parut amusé.
Ramon était mon premier nom de scène.
Ramon et Josie, ça sonnait joliment espagnol, voyez-vous. Et puis, il y a eu tous ces préjugés contre les étrangers, alors je suis devenu Raymond. Très british, quoi. Mais votre vrai nom est très différent, s'enquit Miss Marple. Il sourit.
Dans ma famille, on m'appelle Ramon. J'avais une grand-mère argentine.
Voilà qui explique son balancement de hanche, songea Sir Henry.
Mais mon vrai prénom est Thomas. Terriblement commun, n'est-ce pas?
Il se tourna vers Sir Henry.
Vous êtes originaire du Devonshire, je crois, monsieur, de Stain? Ma famille a toujours vécu dans le coin, au manoir d'Alsmonston.
Le visage de Sir Henry s'éclaira.
Vous êtes un star d'Alsmonston? Je n'avais pas fait le rapprochement.
Évidemment, ça ne m'étonne pas.
Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix.
Pas de chance. Tout ça,
articula gauchement Sir Henry.
Que le domaine ait été vendu après être resté 300 ans dans la famille, oui, c'est vrai. Mais bon, les gens de notre classe doivent disparaître, c'est inéluctable. Nous sommes devenus des inutiles. Mon frère aîné est allé à New York. Il travaille dans l'édition, mais il s'en tire bien. Le reste de la famille s'est dispersé aux quatre coins du monde. Pas facile de nos jours de se faire une situation quand on a pour seule référence d'avoir été éduqué dans un établissement privé. Avec un peu de veine, vous vous retrouvez réceptionniste dans un hôtel. La cravate et les bonnes manières y sont un atout. Moi, le seul boulot que j'ai pu dénicher était démonstrateur dans un magasin de sanitaire. J'étais censé vendre de superbes baignoires en céramique couleur pêche ou citron. Les salles d'exposition étaient immenses. Mais comme je ne retenais jamais ni le prix de ces satanés bazars ni les détails de livraison, on m'a flanqué dehors. Les seules choses que je savais vraiment faire, c'était danser et jouer au tennis. On m'a engagé dans un hôtel de la Côte d'Azur, ça rapportait bien là-bas. Je ne mentirais pas mal. Seulement, un beau jour, j'ai entendu un vieux colonel, un vieux de la vieille, britannique jusqu'au bout des ongles, et qui ne jurait que par l'Empire des Indes. Il était allé trouver le directeur, et il braillait au sommet de sa voix « Où est le gigolo ?» C'était apparemment le seul mot qu'il connaissait en français. « Je veux qu'on m'amène le gigolo, et plus vite que ça. Ma femme et ma fille ont envie de danser. Où est passée cette petite frappe? Il prend combien? J'exige qu'on m'amène le gigolo. »
Raymond poursuivit.
« C'est sans doute idiot, mais je n'ai pas supporté. J'ai tout plaqué. Je suis venu ici. Moindre salaire, mais travail plus agréable. Il s'agit surtout d'enseigner des rudiments de tennis à des mémés rondouillardes qui ne seront jamais, au grand jamais, capables de jouer. Et puis, de faire danser les pauvres petites filles riches dont personne ne veut et qui font tapisserie.
Bon, c'est la vie.
Mais je vous ennuie à vous raconter mes malheurs. »
Il éclata de rire. Ses dents étincelèrent. De fines ridules se plissèrent au coin de ses paupières. Ragaillardi, resplendissant de joie de vivre et de vigueur, il avait retrouvé son sourire ravageur.
« Je suis heureux de pouvoir bavarder un peu avec vous, » dit Sir Henry. « Je voulais justement vous parler. »
À propos de Rubikin, je ne peux guère vous aider, j'ignore qui l'a tué. Je ne sais quasiment rien d'elle. Elle ne me faisait pas de confidence. « Vous la trouviez sympathique ?» demanda Miss Marple.
« Pas particulièrement. »« Pas antipathique non plus, » répondit-il, comme si c'était le dernier de ses soucis.
« Ainsi, vous n'avez aucune suggestion à nous faire ?»«
Non, hélas. Sans quoi j'en aurais déjà fait part à Harper. C'est un des trucs comme il en arrive, sans qu'on sache ni pourquoi ni comment. Pas d'indice, pas de mobile. Un petit crime minable, sordide. »
« Deux personnes avaient un mobile, » rectifia Miss Marple. Sir Henry lui décocha un coup d'œil réprobateur.
« Vraiment ?
fit Raymond l'air surpris. Miss Marple rendit à Sir Henry son regard, mais en nettement plus impérieux. Ce dernier expliqua à contre-cœur
« Sa mort va probablement rapporter à Madame Jefferson ainsi qu'à Monsieur Gaskell la somme de 50 000 livres.
Quoi ?» Cette fois, Raymond ne parut pas surpris, ni même abasourdi. Il semblait au sans-coup.
« Mais c'est absurde! C'est grotesque! Madame Jefferson, aucun des deux d'ailleurs, ne peut être en quoi que ce soit mêlé à ça. Une chose pareille, c'est inimaginable. »
Miss Marple toussota. « Je crains que vous ne soyez un peu idéaliste, » dit-elle doucement.
« Moi ?» fit-il en riant. « Ça m'étonnerait. Il n'y a pas plus cynique que moi. »
« L'argent, » poursuivit Miss Marple, « est un mobile très puissant.
« Peut-être, » admit Raymond avec véhémence. « Mais de là imaginer qu'ils aient pu l'un ou l'autre étrangler une fille de sang-froid. »
Il secoua la tête, puis se leva d'un bond.
« Voilà Madame Jefferson qui arrive. Elle vient prendre sa leçon. Elle est en retard. »
Il eut l'air amusé.
« De 10 minutes !»
Adélaïde Jefferson et Hugo McLean dévalaient le chemin qui menait jusqu'à eux. Avec un sourire d'excuse pour son retard, Addie Jefferson pénétra sur le cours. McLean s'assit sur le banc. Après avoir poliment demandé à Miss Marple si la fumée ne la gênait pas, il alluma une pipe et tira silencieusement des bouffées pendant quelques minutes, tout en suivant d'un œil critique les deux silhouettes blanches qui évoluaient sur le cours.
« Je ne vois pas pourquoi Addie s'entête à prendre des leçons, » dit-il enfin.
« Une partie, d'accord. Je suis le premier à aimer ça, mais pourquoi des leçons ?»«
Pour améliorer sa technique, » suggéra Sir Henry.
« Elle ne se défend déjà pas mal, » dit Hugo, « suffisamment pour ce qu'elle veut en faire. Elle ne vise quand même pas Wimbledon, sacrebleu. »
Il resta une ou deux minutes silencieux, puis reprit
« Et d'abord, qui est-ce, ce Raymond? D'où sortent-ils, ces professeurs? Celui-là m'a l'air un peu métèque. »
« C'est l'un des stars du Devonshire, » expliqua Sir Henry.
« Quoi? Pas possible. »
Sir Henry confirma d'un signe de tête. Hugo McLean ne parut manifestement pas enchanté par cette information. Il se renfrogna plus que jamais.
« Je ne comprends pas pourquoi Addie m'a demandé de venir. Cette affaire n'a pas l'air de la tracasser outre mesure. Elle ne m'a jamais paru mieux. Pourquoi m'avoir appelé à la rescousse ?»«
Quand vous a-t-elle appelé ?»
demanda Sir Henry soudain intéressé.
« Oh, quand tout ça s'est produit. »«
Comment avez-vous été prévenu ? Par téléphone ou par télégramme ?»«
Par télégramme. »«
Simple curiosité. Quand a-t-il été envoyé ?»
Ça, je ne sais pas au juste.
À quelle heure l'avez-vous reçu?
Je ne l'ai pas à proprement parler reçu. On m'a téléphoné.
Ah! Où étiez-vous?
En fait, j'avais quitté Londres la veille dans l'après-midi. J'étais à Denbury Head.
Tiens, tout près d'ici.
Oui, c'est rigolo, non? J'ai reçu le message en rentrant d'une partie de golf et je suis venu tout de suite.
Miss Marple le considéra d'un air songeur. Il semblait être sur des charbons ardents.
« J'ai entendu dire que Denbury Head était très agréable, » dit-elle,
« et relativement peu cher. » Pas hors de prix, non. Sans quoi je ne pourrais pas me le permettre. C'est un coin charmant.
« Il faudra que nous y fassions un tour en voiture un de ces jours, » dit Miss Marple.
« Hein ? Quoi ?
« Ah, oui,
je vous le recommande. » Il se leva. « Je vais faire un peu d'exercice, ça m'ouvrira l'appétit. »
Il s'éloigna d'un pas raide.
« Les femmes mènent vraiment la vie dure à leurs chevaliers servants, »
commenta Sir Henry. Miss Marple sourit sans répondre.
« Personnage assez terne, vous ne trouvez pas ?»
demanda Sir Henry.
« J'aimerais connaître votre opinion. » « Un peu étroit d'esprit, peut-être. Un peu borné. »«
Il n'a pas tout pour lui, mais il a beaucoup. Je suis certaine qu'il a beaucoup. »
Sir Henry se leva à son tour.
« Il est temps que j'aille m'occuper de nos affaires. Voici justement Madame Bantry qui vient vous tenir compagnie. »
Madame Bantry arriva essoufflée et s'assit en haletant.
« J'ai parlé aux femmes de chambre, » dit-elle. « Mais ça n'a rien donné. Chou blanc. Vous croyez vraiment que cette fille a pu avoir une liaison sans que tout le monde à l'hôtel soit au courant ?»«
C'est là un point très intéressant, ma chère. À mon avis, non. 100 fois non. Si tel est le cas, quelqu'un est forcément au courant, vous pouvez en être sûre. Mais elle a quand même dû rester très discrète. »
L'attention de Madame Bantry s'était détournée vers le cours.
Le tennis d'Adi s'améliore beaucoup. Il est charmant, ce professeur. Quant à Adi, elle est très en beauté. Elle est encore jolie femme. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'elle se remarie.
D'autant qu'elle sera riche à la mort de Monsieur Jefferson, jeta Miss Marple.
Oh, n'ayez pas l'esprit toujours aussi mal tourné, Jane. Pourquoi n'avez-vous pas encore éclairci ce mystère? Nous n'avançons absolument pas. Et moi qui me disais que vous trouveriez tout de suite.
La voix de Madame Bantry avait sonné comme un reproche.
Non, ma chère, non. Je n'ai pas trouvé tout de suite. C'est vrai qu'il m'a fallu un peu de temps.
Madame Bantry se retourna d'un coup, surprise, et posa sur elle un regard incrédule.
Vous voulez dire que vous savez qui a tué Rubikin?
Oh oui, répondit Miss Marple. Ça, je le sais.
Mais alors, Jane, qui est-ce? Dites-moi tout!
Miss Marple secoua énergiquement la tête, lèvres pincées. Désolée, Dolly. Impossible.
Pourquoi?
Parce que vous parlez trop. Vous iriez le claironner sur tous les toits. Ou, dans le meilleur des cas, vous vous livreriez au petit jeu des insinuations.
Je vous jure que non. Je serais muette comme une tombe.
C'est le genre de promesse qu'on ne tient jamais. Non, ma chère, je ne peux pas. Nous sommes encore trop loin du but. Il reste encore beaucoup de points obscurs. Vous vous rappelez la fois où je m'étais tellement opposée à ce qu'on laisse Madame Partridge quêter pour la Croix-Rouge et où j'avais refusé de dire pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que son nez remuait exactement de la même manière que celui de ma petite bonne Alice quand je l'envoyais régler les fournisseurs. Elle leur versait immanquablement 1 ou 2 shillings en moins et leur demandait qu'on les reporte sur le compte de la semaine prochaine. C'est exactement ce que faisait Madame Partridge, mais à une bien plus grande échelle. Elle, c'était 75 livres qu'elle avait détournées.
« Je me fiche de Madame Partridge !» s'impatienta Madame Bantry.
« C'était juste pour vous expliquer. En tout cas, je peux vous dire une chose, si vous y tenez. Le problème dans cette affaire, c'est que tout le monde s'est montré beaucoup trop crédule, beaucoup trop enclin à tomber dans tous les panneaux. On ne peut pas se permettre de prendre tout ce qu'on vous dit pour argent comptant. Moi, dès qu'il y a du louche, je ne crois plus personne. Je connais trop la nature humaine et sa perversité. »
Madame Bantry resta silencieuse un instant avant de reprendre en changeant de ton.
« Je vous ai dit, n'est-ce pas, que je ne voyais pas pourquoi je me priverais du plaisir de m'occuper de cette affaire. Un meurtre, un vrai, sous mon propre toit. Une chose pareille, ça ne vous arrive pas 2 fois. »
« Je vous le souhaite, » commenta Miss Marple.
Moi aussi, tout compte fait. Une fois suffit. Mais c'est mon meurtre, Jane. Et je compte bien en profiter.
Miss Marple lui décocha un regard en coin.
Vous ne me croyez pas?
Demanda Madame Bantry soudain belliqueuse.
Bien sûr que si, Dolly, puisque vous le dites.
Oui, mais vous ne croyez jamais ce qu'on vous dit, n'est-ce pas? Vous venez de le répéter. Bon, eh bien, vous avez parfaitement raison.
Sa voix se fit soudain amère.
Je ne suis pas complètement idiote. Vous croyez peut-être, Jane, que je ne suis pas au courant des bruits qui circulent à Sainte-Marie-Mide et un peu partout dans le comté. Chacun raconte à qui veut l'entendre qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
que si cette fille a été retrouvée dans la bibliothèque d'Arthur, ce n'est pas par hasard. Que c'était sa maîtresse. Sa fille illégitime. Qu'elle le faisait chanter. Tout leur est bon. Tout ce qui passe par leur tête de pioche. Et ça ne fait que commencer. Arthur ne s'apercevra de rien au début. Il ne comprendra pas ce qui ne va plus. Il est tellement naïf et innocent, le pauvre vieux chou, qu'il n'imaginera jamais qu'on puisse penser de lui des choses pareilles. On va lui tourner le dos, le regarder de travers, pour ce que ça signifie d'ailleurs. Et puis, la vérité va petit à petit se faire jour en lui. Et tout d'un coup, il va être frappé d'horreur, mortifié jusqu'au tréfonds. Et il va se refermer comme une huître et souffrir jour après jour, muré dans sa détresse. Et c'est parce que tout ça va lui arriver que je suis venue fureter ici à la recherche du moindre indice. Cette énigme doit être élucidée, sinon la vie d'Arthur est fichue. Et ça, je ne le permettrai pas, je ne le permettrai pas, je ne le permettrai pas, je ne le permettrai pas.
Elle s'interrompit un instant et reprit.
Je ne laisserai pas mon vieux mari souffrir comme un damné pour une chose qu'il n'a pas faite. C'est uniquement pour ça que je suis venue à Deadmouth, en le laissant à la maison, pour découvrir la vérité.
Je sais, ma chère, dit Miss Marple, et c'est aussi la raison pour laquelle je vous ai accompagnée.